commencer. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tours. Il est 7h17, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission en ce vendredi 9 mai. Au programme ce matin, un point sur l'information par Mathis Maudet qui sera également à la technique. Clara Baudard nous parlera chasse à cours, on ira ensuite au Met Gala avec Alia Trabelsi, on restera à l'international en parlant de la fin de la conclave par Baptiste Villermé, et Théo Leur nous parlera sport et particulièrement de MMA ainsi que international. Vous écoutez bien un Good Morning Tour sur le 99.5 FM, il est 7h17. C'est une pratique qui a la vie dure. En Sologne ou ailleurs, c'est la chasse à cours ou vénerie qui ne passe pas inaperçue. Entre grands noms du CAC 40, cavaliers en costume et militants bien décidés à tout filmer, la chasse à cours donne lieu à certaines tensions.
C'est une tradition, paraît-il, un vestige du monde d'avant. Des hommes à cheval, des chiens lancés à toute allure et un cerf traqué jusqu'à l'épuisement, puis éventré sous des applaudissements. Et non, ce n'est pas une scène tirée d'un manuel d'histoire ou d'un tableau de l'ancien temps, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui encore dans les bois français. En Sologne, près de Tours, la capitale autoproclamée de la vénerie, c'est tout le gratin mondain qui se réunit pour chasser à cheval. Bouygues, Dassault, c'est d'où les grandes fortunes françaises débarquent parfois en hélicoptère au milieu de leurs hectares pour seulement quelques heures de traque. Là-bas, pour les riches, la chasse à cours, ce n'est pas une simple passion, juste une tradition. C'est bien plus que ça. C'est un outil social, un espace dédié au réseautage où on sabre le champagne entre deux coups de trompe et on écoute et on échange des contrats à dos de cheval. Et surtout, on y perpétue une hiérarchie bien rodée, venue tout droit de l'ancien régime. À l'époque, seuls les nobles avaient le droit de chasser à cours. Aujourd'hui, seuls les très riches en ont les moyens. La chasse à cours a été un moyen d'afficher son rang, a toujours été un moyen d'afficher son rang. En Sologne, elle est revenue quand certains ont mis la main sur des propriétés boisées dans les années 2000. Si au départ, on chassait le sanglier avec des battues de 200 à 300 animaux, tout ça, en une journée, ils se sont montrés encore plus gourmands et sont montés à cheval. Le risque, c'est que la traque, ce n'est pas juste entre la forêt et les chasseurs, mais maintenant, ça se joue aussi avec les militants anti-chasse. Eux aussi ont fini par courir après la chasse à cours. Caméra au point, ils filment, dénoncent, protestent. Résultat, les parties de chasse finissent souvent en face-à-face tendues, qui peuvent dégénérer. Maureen, jeune journaliste, a infiltré les rangs des militants le temps d'une journée pour comprendre ce qui se joue vraiment dans ces forêts.
Quand on est arrivé, on a été direct mal perçu. Moi, j'ai essayé de prendre des photos et des vidéos. On est venu m'interpeller à plusieurs reprises. Ensuite, donc, ils se sont séparés pour commencer à chasser le cerf. Et les militants avaient des cartes avec les zones en fait de la forêt qui étaient numérotées. Et en gros, ils communiquaient par toki-voki pour indiquer où les chasseurs se déplaçaient. Pendant toute la demi-journée, on les a suivis. On les voyait pas tout le temps parce que la forêt était assez dense. Mais il y avait des moments où on leur courait après, en fait, pour essayer un peu de déstabiliser la chasse. Et eux n'hésitaient pas à galoper hyper vite à côté de nous et s'adresser à nous de manière assez agressive. Et le but, c'était vraiment que chacun se barre un peu le passage. Et il y avait aussi un moment où, en fait, on s'est fait barrer la route par un troupeau, du coup, de chiens qui avaient repéré le cerf. J'ai essayé de sortir à ce moment-là de la voiture pour filmer. Et en fait, il y avait les chiens, du coup, qui étaient lancés devant. Et derrière, donc, tous les chevaux avec les chasseurs qui étaient dessus, bah, qui les suivaient, en fait, au galop pour attraper le cerf. Un monde à part, avec beaucoup de personnes, plutôt moyenne d'âge 50-60 ans, mais quelques jeunes aussi. C'était vraiment un monde hors du temps, où ils étaient tous en costume. C'était un peu un jeu du chat et la souris entre, bah, déjà, les chasseurs et le cerf. Et les militants anti-chasse et les chasseurs.
Les chasseurs, eux, jurent que l'animal ne souffre pas. Les militants, évidemment, n'y croient pas une seconde. Et la pratique n'a pas de visée à réguler l'espèce. À la fin de la battue, la bête, elle est tuée à l'arme blanche et déployée comme un trophée, comme à l'époque. Et au milieu de tout ça, on a les riverains. Eux n'en peuvent plus. Certains voient les cavaliers traverser leur village en pleine chasse, mettent en danger les habitants, les animaux domestiques, un vrai ras-le-bol. Alors la question se pose, est-ce que l'on peut vraiment tout justifier sur le dos de la tradition ?
Très bonne question Clara. On passe tout de suite au Flash Info présenté par Mathis Maudet.
La paix. Au pied de l'Arc de Triomphe, le président français Emmanuel Macron a tenu un discours à l'occasion des commémorations du 8 mai. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne nazie, il a aussi tenu en alerte les Européens qui ont vu, je cite, « ressurgir le spectre de la guerre à l'Est ». Il faisait allusion à la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis plus de 3 ans. Au Parlement ukrainien, justement, l'accord sur l'exploitation des minerais a été ratifié hier après-midi. En l'échange d'une nouvelle aide militaire, l'Ukraine s'engage à laisser les États-Unis extraire ses ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que c'est un nouveau chapitre entre les deux pays. Son homologue américain Donald Trump s'est lui félicité de cet accord après des semaines de discussions. Le Paris Saint-Germain qualifié en finale de Ligue des Champions. Après avoir battu les Anglais d'Arsenal 1-0 au match retour, les Parisiens ont remis ça au match aller. Les Parisiens ont remis ça mercredi soir. Grâce à leur victoire 2-1 au Parc des Princes, ils retrouvent l'Inter de Milan en finale. Tombeur de Barcelone mardi. Le 31 mai prochain, les Parisiens tenteront de décrocher leur première Ligue des Champions, 5 ans après avoir échoué au même stade face au Bayern de Munich. En marge de la qualification, 3 blessés et 47 interpellations ont eu lieu dans la capitale pendant les célébrations. Une manifestation en soutien à la Maison Internationale Populaire à Tours. Hier, près de 200 personnes ont manifesté pour interpeller les pouvoirs publics. Le collectif est menacé d'être expulsé des casernes Beaumont par les services de société d'équipement de Touraine. Pour quelle raison ? Il y a 3 semaines, des citoyens ont investi le bâtiment inhabité, sans autorisation, pour y mettre à l'abri environ 80 personnes à la rue. La Maison Internationale Populaire attend une réponse à sa demande d'entretien avec l'institution qui gère les lieux. On connaît le nouveau pape. Hier, les 133 cardinaux se sont mis d'accord sur un nom. L'américain Robert Francis Prévost, Léon XIV, est devenu le 267e souverain pontife de l'histoire, 3 semaines après la mort du pape François. Baptiste Virimé nous en dit plus dans un instant.
Il est 7h25, vous écoutez bien toujours Good Morning Tour sur Radio Campus. Mathis vient d'en parler dans son flash, l'église a son nouveau pape, le 267e de l'histoire et il s'appelle Léon XIV. Baptiste Vermé nous adresse son portrait.
Que la paix soit avec vous tous. Ce sont les premiers mots à la foule de l'américain Robert Francis Prévost depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Il a été élu par les cardinaux hier soir après 24 heures de conclave au sein de la chapelle Sixtine et succède donc au pape François décédé le 21 avril à 88 ans. C'est le premier pape états-unien de l'histoire. On parle de lui comme un homme d'écoute et de synthèse. Polyglotte, il parle l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol et même le portugais. Parmi les candidats au poste, l'américain faisait partie des personnalités considérées comme modérées. Son profil avait tout pour plaire car il connaît autant le terrain que les secrets du Vatican. Il est décrit par le journal La Croix comme un grand timide. Il ne s'est jamais vraiment engagé dans les batailles idéologiques qui ont eu lieu au sein de l'Église, jouant souvent la carte de l'apaisement entre progressistes et conservateurs. Il déclarait d'ailleurs en 2023 auprès de Vatican News « Les divisions et les polémiques dans l'Église ne servent à rien ».
Le pape François avait mis le devant de la scène les questions de l'homosexualité dans l'Église. Est-ce que le nouveau pape Léon XIV est sur la même ligne ?
Alors non, pas du tout. Lui émet plus de réserves que le pape François sur la question des personnes LGBTQIA+. En 2012, il avait exprimé son inquiétude face à la culture occidentale qui favoriserait la sympathie pour des croyances et des pratiques contraires à l'Évangile. Il faisait directement référence au mode de vie homosexuel. Depuis, silence radio, en 13 ans, Léon XIV ne s'est pas exprimé publiquement sur la question, ce qui laisse place à toutes les spéculations. Pour rappel, son prédécesseur, le pape François, avait rencontré des catholiques homosexuels ou transgenres et avait affirmé que Dieu aime chacun tel qu'il est. Une source proche du Vatican explique « Il est encore trop tôt pour savoir si Léon XIV poursuivra la dynamique d'écoute engagée par François ou s'il marquera une inflexion plus doctrinale. »
Est-ce que des anciennes affaires pourraient porter préjudice au nouveau pape ?
Et vous ne croyez pas si bien dire, Angelina. Il est accusé de mauvaise gestion dans des affaires d'abus sexuels au Pérou. D'après le New York Times, il est accusé de ne pas avoir soutenu des victimes d'abus sexuels qui mettaient en cause deux prêtres du diocèse de Chiclayo, dont il avait la responsabilité. Les accusations sont rejetées par le diocèse, qui indique que Mgr Prévost avait rencontré les victimes en 2022. Une enquête est toujours en cours. En bref, Léon XIV aura de nombreux défis tout au long de son pontificat, parmi eux, garantir l'unité de l'Église, adapter l'Église aux exigences du présent, lutter contre les abus sexuels, relancer les vocations et déployer une vraie diplomatie pour le dialogue et pour la paix.
Merci Baptiste, il est 7h27, tout de suite on respire en musique avec Les filles, les femmes, les meufs de Marguerite, une jeune artiste connue grâce à la Star Academy.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez. Et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer.
Et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. C'est pour eux c'est compliqué. Et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Les meufs de l'artiste Marguerite. Il est 7h30 et vous écoutez toujours la matinale des étudiants et étudiantes de l'école de journalisme public de Tours sur Radio Campus. Et on ouvre tout de suite notre page internationale. Après avoir imposé des droits de douane qui pénalisent l'économie américaine, faite de déclarations contraires à la Constitution sur l'immigration et même avoir qualifié d'imbécile le président de la Banque centrale américaine hier, de plus en plus de questions se posent sur la présidence de Donald Trump. Théoleur, bonjour.
Bonjour.
En quoi la philosophie de Trump a-t-elle changé par rapport à 2017 ?
Eh bien, c'est la question du moment. De nombreux Américains se disent de plus en plus déçus de la politique de Donald Trump. Ils dénoncent même des dérives autoritaires. Et on peut dire que le président américain aborde sa deuxième présidence très différemment de la première. Lui-même l'a reconnu devant les journalistes de The Atlantic le 28 avril dernier, dans une longue interview accordée à un journal qu'il dit pourtant détester. Selon Trump, je cite, « C'est une présidence bien plus puissante que celle que j'ai eue la première fois. La première fois, je me battais pour ma survie et pour diriger le pays. Cette fois, je me bats pour aider le monde et pour aider le pays. » Fin de citation.
Pourtant, depuis le début de son deuxième mandat, il semble surtout vouloir se venger de ceux qu'il considère comme des adversaires politiques ou ceux qui l'ont pris pour cible dès 2017.
Oui, et c'est bien là le problème de la nouvelle puissance de cette deuxième présidence de Donald Trump. Pourtant, il s'est défendu devant The Atlantic d'être dans le camp de ceux qui pensent qu'il doit seulement faire un bon boulot, aller au terme de son mandat et « Make America Great Again », bien sûr. Pourtant, plus les choses avancent, plus on se dit qu'il fait évoluer la présidence américaine dans la mauvaise direction et surtout à son avantage. Sous le prétexte de simplement répondre aux demandes de ses électeurs ou encore d'agir selon ses convictions, il propose des choses qui s'opposent au fonctionnement même de la fonction présidentielle. Sa proposition d'abroger le droit du sol, pourtant assuré par la Constitution, en est un des exemples. Idem pour son idée de ressortir une loi de 1798 uniquement utilisée en temps de guerre. Elle prévoit de renvoyer des prisons à l'étranger tous les immigrants illégaux sans aucune forme de procès, alors que cela est garanti par la loi.
Et Donald Trump va même plus loin dans ses attaques contre la Constitution et l'équilibre des pouvoirs au niveau fédéral.
C'est arrivé dimanche dernier lors d'une interview sur NBC, quand les journalistes américains lui ont demandé s'il pensait devoir respecter la Constitution en tant que président. Donald Trump a répondu « Je ne sais pas ». C'est d'autant plus inquiétant que cela voudrait dire que le républicain a des problèmes de mémoire. Dans le serment présidentiel qu'il a prononcé deux fois, dont la dernière en janvier dernier, il y a une phrase très explicite, je cite « Je jure de servir, protéger et défendre la Constitution des États-Unis d'Amérique ». Fin de citation. Donald Trump semble au contraire essayer de plier à sa guise ce texte, pourtant considéré comme sacré pour tant d'Américains. Il a notamment en tête un nouveau mandat en 2028, soi-disant plébiscité par ses électeurs, une troisième élection à laquelle il ne peut pas se présenter depuis le 22e amendement, qui limite à deux les mandats présidentiels. En tout cas, même si le monde va mal et que Donald Trump semble seulement n'en faire qu'à sa tête, le président américain prévoit progressivement la suite, de quoi ajouter aux malheurs ambiants.
Merci Théo Leur. Autre preuve de fantaisie de Donald Trump, il avait partagé une photo générée par l'intelligence artificielle de lui en pape pendant que les cardinaux étaient réunis au conclave à Rome. Preuve peut-être que la présidence américaine ne lui suffit pas. Il est 7h33, on va marquer une petite pause musicale avec le titre « Baby Doll » de Dominique Fike.
I can't move on, baby doll, waiting on calls, flipping through stations, I'm outclassed, it's outrageous, I'll take it all, baby doll, whatever's been weighing you down, find me on Miami concrete, looking for somebody different, cause my daddy was a pimp. My mama had issues, but I miss it anyway. Oh, baby doll, please don't call me for the wrong reason. We both know exactly what I'm thinking. Weeks pass and I never grow tired, cause I never said never and I barely ever lie. I'm on the road to an original place and out of space. I didn't make it up, but you can't find it on the phone or a globe, and I can take you with me if you really wanna go. Oh, baby, don't, I can't move on. I can't move on, baby, don't. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed, it's outrageous. I'll take it all, baby, don't. Whatever's been waiting you down.
Vous venez d'écouter le titre « Baby Doll » de Dominique Fike. Il est 7h36. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité du jour.
Nous n'aurons jamais fini de défendre la paix. Au pied de l'Arc de Triomphe, le président français Emmanuel Macron a tenu un discours à l'occasion des commémorations du 8 mai. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne nazie, il a aussi tenu en alerte les Européens qui ont vu, je cite, ressurgir le spectre de la guerre à l'Est. Il faisait allusion à la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie depuis plus de 3 ans. Au Parlement ukrainien, justement, l'accord sur l'exploitation des minerais a été ratifié hier après-midi. En l'échange d'une nouvelle aide militaire, l'Ukraine s'engage à laisser les États-Unis extraire ses ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que c'est un nouveau chapitre entre les deux pays. Son homologue américain, Donald Trump, s'est lui félicité de cet accord après des semaines de discussions. Le Paris Saint-Germain qualifié en finale de Ligue des Champions. Après avoir battu les Anglais d'Arsenal 1-0 au match aller, les Parisiens ont remis ça mercredi soir. Grâce à leur victoire 2-1 au Parc des Princes, ils retrouveront l'Inter de Milan en finale, tombant de Barcelone mardi. Le 31 mai prochain, les Parisiens tenteront de décrocher leur première Ligue des Champions 5 ans après avoir échoué au même stade face au Bayern de Munich. En marge de la qualification, 3 blessés et 47 interpellations ont eu lieu dans la capitale pendant les célébrations. Une manifestation en soutien à la Maison Internationale Populaire à Tours. Hier, près de 200 personnes ont manifesté pour interpeller les pouvoirs publics. Le collectif est menacé d'être expulsé des casernes Beaumont par les services de société d'équipement de Touraine. Pour quelle raison ? Il y a 3 semaines, des citoyens ont investi le bâtiment inhabité sans autorisation pour y mettre à l'abri environ 80 personnes à la rue. La Maison Internationale Populaire attend une réponse à sa demande d'entretien avec l'institution qui gère les lieux. On connaît le nouveau pape. Hier, les 133 cardinaux se sont mis d'accord sur un nom. L'américain Robert Francis Prévost Léon XIV est devenu le 267e souverain pontife de l'histoire, 3 semaines après la mort du pape François. La fumée blanche s'est extraite de la chapelle Sixtine hier à l'issue du deuxième jour du conclave.
Dans la nuit de samedi à dimanche, à 4h du matin, heure française, l'UFC 315 aura lieu à Montréal, au Canada. Le nouvel événement majeur de la première organisation mondiale de MMA est particulièrement importante parce qu'il y aura 2 Français en compétition. Théo Leur, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi ces combats sont-ils particulièrement intéressants ?
Eh bien, tout simplement parce que Manon Fiorot et Benoît Saint-Denis, les 2 Français sur la carte principale de l'UFC 315, sont à un tournant de leur carrière. C'est Saint-Denis, l'ancien militaire des forces spéciales, qui ouvrira le bal. Après le forfait du premier adversaire prévu, le Brésilien Joel Alvarez, le combattant surnommé God of War affrontera un vétéran de l'UFC, le Canadien Kyle Prepolek. Alors au Canada, le Français n'aura pas l'avantage du public, mais devra prouver qu'il mérite sa place parmi les meilleurs poids légers du monde. Lui qui avait enchaîné 5 victoires impressionnantes, s'était cassé les dents en mars 2024 sur une légende du MMA, l'américain Dustin Poirier. Quelques mois plus tard, à l'UFC Paris, c'est le Brésilien Renato Moicano qui le dominait largement. De quoi pousser Benoît Saint-Denis à changer de coach pour vraiment se relancer. Il devra donc marquer les esprits plus de 7 mois après son dernier combat avec l'organisation pour continuer à espérer un jour pouvoir atteindre le titre de champion du monde.
Météo, il y a surtout Manon Fiorot pour qui les enjeux sont encore plus importants et qui pourrait marquer l'histoire du MMA français.
Et c'est pour elle justement que je vous parle de cet événement. Manon Fiorot est peut-être la plus grande star du MMA français. Pour ceux qui en douteraient, je vais simplement rappeler son palmarès. En amateur, elle est championne du monde de MMA, rien que ça, mais aussi 2 fois championne de France de boxe thaï et 3 fois championne de France de karaté. Et en professionnel, elle est à 12 victoires pour une seule défaite. À l'UFC, elle a enchaîné 7 victoires de suite. Elle a battu la légende Rose Namajunas ou encore l'une des meilleures de sa catégorie, Erin Blanchfield. Forcément, un parcours pareil donne une chance pour la ceinture mondiale des poids mouches face à la championne actuelle Valentina Shevchenko. Et c'est ce combat qu'il faudra surveiller dans la nuit de samedi à dimanche au Centre Bell de Montréal.
Et Manon Fiorot pourra aller plus loin qu'aucun autre combattant français de MMA.
Pourtant, la liste des Français qui sont au premier plan à l'UFC est de plus en plus longue, avec notamment Cyril Gane ou Nassour Dinimavov, pour ne citer que les mieux embarqués sur le papier, surtout le second. Mais c'est bien Manon Fiorot qui a l'opportunité et surtout les capacités pour aller chercher le premier titre indiscutable pour une Française ou un Français dans la plus grande organisation mondiale. Un symbole d'autant plus fort quand on dit souvent que les sports de combat sont des sports masculins, encore plus quand on sait que le président de l'UFC, Dana White, lui-même, ne voulait pas de division féminine dans les premiers moments de son organisation. Manon Fiorot est déjà un modèle pour tous les passionnés de MMA. Elle l'est aussi pour toutes les filles et les femmes qui s'intéressent au sport de combat et qui ne se disent plus qu'ils ne sont pas faits pour elles. Sa victoire à l'UFC 315 serait alors une consécration plus que méritée pour couronner un parcours et une athlète tout simplement exceptionnelle.
Merci Théo Leur. Et pour ceux qui voudraient suivre le combat en direct, il sera à suivre dimanche très tôt à 4h du matin sur RMC Sport. Une dernière pause musicale avant de finir en beauté avec un billet d'humeur. Tout de suite, c'est l'artiste Solane avec le titre L'Oiseau.
Je ne regrette pas mon nid ou mon plumage tacheté de gris qui vire maintenant au vermillon. Je ne verrai plus les saisons. Je ne regrette pas ma coquille, mon œuf, ma branche, le ciel qui brille. Je finis ma vie entre des crocs, moi qui l'ai commencé bien haut. Ma fin, je suis pas déçue, le chat m'a eu, on s'attendait. Se paye cher et tu es celui des vipères. Je ne regrette pas mon envie d'avoir faim et d'aimer la vie. Je n'ai pas vu le chat venir dans les hautes herbes de mes désirs. Ma faim, je suis pas déçue, le chat m'a eu, on s'attendait. C'est très bien. On vole tous en cercle ici-bas. On part, on y retournera. On part, on y retournera. On part, on y retournera.
C'était le titre Oiseau de l'artiste Solane. Il est 7h45, l'heure du billet d'humeur. Dans la nuit de lundi à mardi, le très célèbre et renommé Met Gala s'est tenu, comme chaque premier lundi du mois de mai. De nombreuses célébrités ont donc défilé tour à tour sur les marches du prestigieux musée de la 5e avenue de Manhattan, sous les yeux ébahis du monde entier. Et comme chaque année, Anna Wintour, grande prêtresse de l'événement, n'a rien laissé au hasard.
Et c'est peu dire, Angelina. Le Met Gala, déjà, c'est le meilleur moyen pour les maisons de couture de se faire repérer pour leurs pièces d'exception. Donc chaque année, les limites de la mode sont toujours plus repoussées. Au menu, imagination et interprétation exigées. Tout ça dans le but de récolter des fonds afin de financer le Costume Institute, musée de la mode, et imaginer des expositions toujours plus impressionnantes. Pour y parvenir, l'édition 2025 s'est placée sous le thème fort de Superfine Tailoring Black Style, autrement traduit par Vogue France comme un hommage au dandy noir.
Un thème qui ne manque pas de résonner avec l'actualité.
Un thème puissant, en effet, qui replace le vêtement au cœur d'un récit politique et culturel. Ici, le dandisme noir ne se résume pas à des coupes élégantes ou à des tissus précieux. Il participe à la construction d'une identité au sein de la diaspora afro-américaine. Une manière pour les communautés noires d'affirmer leur dignité et leur singularité face à l'effacement et l'exclusion. En détournant les codes du pouvoir par les vestons impeccables, des cravates millimétrées ou encore des postures soignées, ces dandys réécrivent les règles du style pour affirmer leur propre narration. Une élégance assumée qui inspire visiblement encore les plus grands noms de la mode.
Et pour inspirer les nombreux et très célèbres invités du Met Gala, un dress code a été annoncé que je ne saurais prononcer en anglais, mais traduit comme « taillé sur mesure ».
Tailor for you, un dress code ouvert à de multiples interprétations, mais surtout pensé comme un reflet de la personnalité et de la silhouette de chacun. une mode intime, presque introspective, même si on en vient à se demander si être soi-même et être célèbre sont vraiment compatibles. En y regardant de plus près, ce dress code renvoie bien sûr au costume taillé sur mesure, mais il va surtout puiser dans une idée du style comme un héritage, façonné par le plaisir de détourner les codes pour mieux les réinventer, y compris de genre et de masculinité. Et cette année, cette vision prend tout son sens. La mode masculine est enfin mise à l'honneur et qu'est-ce que ça fait du bien ! Pour la seconde fois seulement dans l'histoire du Met Gala, les hommes n'ont pas pu se cacher derrière un thème jugé trop féminin. Résultat, de la couleur, des accessoires et de la fantaisie. À bas le smoking noir, place à l'extravagance et pour ça, merci Anna Wintour.
Et on espère que l'année prochaine, la surprise soit tout aussi bonne et que vous serez encore parmi nous pour nous faire vos retours. Il est 7h47 et c'est déjà l'heure de se quitter. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous en direct. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Merci à Clara Baudard, Marcis Maudet, Alia Trabelsi, Douleur, Baptiste Veillermé. Nous, on se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. Et en attendant, prenez soin de vous et bonne journée à toutes et à tous.